Le but marqué à 2 minutes 22 par Christina Dimitriou. Avec l'aide de Sébastiano Brunet, Lucie Beaulieu, Tarek Malki, Jenny Agostino, Edith Chen, Emmanuel Jean-Pierre.
Au hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers Remax, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Martin McGoyeux et Danny Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado Bon Match.
C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Nous revenons sur ce sujet de grande discussion, le fameux REM, la portion qui va passer par le centre-ville. On connaît la position de la caisse de dépôt, ça peut pas être souterrain, c'est pas faisable, ça va coûter trop cher. Puis là, il y a des voix discordantes qui se font entendre, qui disent, ben, il y a peut-être moyen que, puis dans le fond, le vrai débat, c'est le prix. On peut tout faire, mais il faut payer pour. Alors, est-ce que c'est finalement pensable d'avoir un tunnel? Et Valérie Plante qui dit, moi, je veux des preuves. Venez me faire une démonstration, là, que il n'y a pas moyen de faire autrement. Monsieur, je sais que c'est un de vos sujets préférés.
Mais c'est pas simplement la démonstration, parce que là, regarde, là, ce matin, on apprend que, on va peut-être faire un petit tunnel 500 mètres, il va sortir à Jeanne-Mance ou à Bleury, puis moi, c'est le scénario que je craignais depuis le début. Parce que l'objectif, c'est quoi? C'est de séparer les manifestants le long du tracé des très gros propriétaires immobiliers, Cadillac Fairview, etc. Même Ivanhoé Cambridge, bizarrement, pourtant membre de la caisse. Donc, en séparant les deux groupes, en disant les tours du grand centre-ville seront finalement, il va y avoir un tunnel, les autres, débrouillez-vous. Là, ça, c'est le scénario que je craignais. Puis en plus, au sein du comité d'intégration, les 16 sages qui travaillent puis qui sont en train de se déchirer leur chemise, peut-être qu'ils vont dire, bon, il y a eu une concession de la caisse, on va accepter. Moi, je continue de dire que il faut faire un tunnel au moins tout le long de René Lévesque. Puis il faut travailler très fort à réfléchir au parc Morgan, puis il faut réfléchir très fort aussi à la rue Sherbrooke dans l'Est, dans Mercier. Mais pourquoi il n'y a pas de tunnel qui va plus loin que Jeanne-Mance? Sans doute, il y a des problèmes techniques, puis regarde comment les dossiers se présentent. Il y a un tunnel entre le complexe des Jardins puis le complexe Guy Favreau. Il y a un tunnel piétonnier. Hein? Ça veut dire que si tu veux faire passer un tunnel de train, il faut que tu le fasses passer en dessous. À cet endroit-là, il y a aussi la ligne verte, la ligne orange qui tourne, etc. Il y a des vrais enjeux techniques. Mais les vrais enjeux techniques, tu peux les défaire un par un. Tu peux dire, OK, en as-tu tant besoin que ça du tunnel piétonnier entre Guy Favreau puis Desjardins? Est-ce qu'on peut aller jusqu'à l'enlever? Oui, mais ça, ils sont pas dans le comité, eux autres. Il faudrait faire soit payer une forme d'expropriation, soit avoir une entente. Il faudrait quelque chose. Mais ils sont pas allés jusque-là. Mais allez jusque-là. Prenez plus de temps, puis allez jusque-là, dites à Desjardins puis Guy Favreau, pour le bien de la ville. C'est arrivé, ça, que des entrepreneurs, pour le bien de la ville, abandonnent des privilèges. La rue McGill, au centre-ville, la belle rue McGill, au centre-ville, c'était une rue très étroite. Il a fallu démolir des édifices, et ce sont des édifices qui appartenaient à des privés. Ils ont accepté que ce soit démoli. Ils ont accepté qu'il y ait un élargissement de la rue pour faire une rue de prestige. Place Ville-Marie, récemment, qui a fait ses escaliers, qui a déplacé ses deux portes de garage puis qui a fait des escaliers. C'est magnifique, c'est extraordinaire. Je vous invite à aller le voir. Et c'est un effort privé pour participer au bien commun. Alors, le complexe des Jardins et le complexe Guy Favreau peuvent participer à cet effort.
Heureusement qu'il y a des voix discordantes dans le dossier du REM. La mairesse a raison de douter. Écoutez, hier, elle a fait une sortie. Bon, je souhaiterais voir les scénarios que la caisse a sur la table pour démontrer effectivement qu'il n'y a pas d'autre option que le train à la version aérienne dans le centre-ville. Le lendemain, c'est-à-dire aujourd'hui, on apprend qu'ils sont prêts peut-être à enfouir 500 mètres, mais sur 25 kilomètres de tracé. Excusez, là, c'est nettement insuffisant, un. Deuxièmement, on ne peut pas donner un chèque en blanc à la caisse dans ce dossier-là. Vous irez lire ce matin dans Le Devoir un texte extrêmement instructif. Jean-Claude Marchand, qui est architecte et urbaniste, le gars, il est professeur émérite à l'Université de Montréal. Lui, il dit le REM de l'Est à la recherche de l'équilibre. Ce qu'il dit actuellement, là, c'est qu'on s'en va droit dans le mur. C'est un projet qui déséquilibré dans toute sa splendeur, je veux dire ça comme ça. Et il appelle lui, ce qu'il dit, c'est il faut rejeter le projet. Il en appelle à rejeter le projet. Alors, c'est vraiment un dossier qui, depuis le début, suscite du mécontentement, suscite la critique, et malgré tout, la caisse persiste et signe. Vous avez peut-être vu dans la presse un article de Maxime Bergeron qui est allé à Vancouver, qui nous apprend qu'à Vancouver, pour une portion du SkyTrain, qui devait passer sur la rue Broadway, qui est une artère principale qui fait de l'est, qui va de l'est à l'ouest à Vancouver, ils ont décidé, après avoir consulté, après avoir étudié 200 scénarios. Ils ont privilégié la voie
souterraine.
Alors, 200 scénarios. Imaginez, là. Et là, on a un comité d'experts, ils sont 15, puis ils nous disent, ben, on va vous déployer, en fait, vous livrer nos recommandations d'ici la fin de l'année, puis ils ont commencé à travailler au mois de mai. Ça va beaucoup trop vite. 10 milliards de dollars, 32 kilomètres de tracé, dont 25 kilomètres dans les airs. On ne peut pas se tromper. Et ça se peut pas qu'il y ait autant de voix qui se montrent critiques. Ça se peut pas. Et les critiques, elles sont légitimes. Puis un commentaire, moi, là, tu sais, moi, je vis pas à Montréal, mais je vis pour le travail, mais de l'extérieur, je me dis, attends une minute, là. On a mis à terre les changeurs Turcot. C'est sûr que les changeurs Turcot dataient des années 60. On l'a mis à terre, entre autres, pourquoi? Au-delà de sa vétusté, on s'est dit, ce genre d'infrastructure n'a plus sa place sur le plan urbanistique. Ça date d'une autre époque. Et là, on va construire, on s'emploie à construire un train sur des immenses, qui va s'appuyer, qui va circuler sur des immenses pylônes de béton. Je me dis, ben, qu'est-ce qu'on a...
Tu vas rentrer dans un tunnel à la hauteur de Jeanne-Mance. Imagine-toi.
Mais qu'est-ce qu'on n'a pas compris, là?
Tu pars d'un truc surélevé qui va descendre puis qui va rentrer dans un tunnel à la hauteur de Jeanne-Mance, ça va être une destruction de la rue René-Lévesque. Là. C'est vraiment, pendant ces 300 mètres-là où tu passes de la hauteur au tunnel, c'est une destruction complète de la rue. Là.
Mais moi, depuis le début, là, puis je passe souvent sur René-Lévesque, là, je me dis, il me semble qu'à sa face même, ça peut pas être une structure aérienne. Le bruit, la densité de population puis de circulation qu'il y a là, les bureaux qui sont à côté, il y a des gens qui vivent, c'est pas juste des bureaux. Là, de... Il me semble que c'est pas...
Non, ça peut pas. Puis il y a un potentiel aussi, il y a un potentiel. Radio-Canada est en train de faire un plan pour réorganiser tous les espaces qui étaient occupés autour de la Grande Tour puis des anciens studios. Ça va être un quartier vivant. Porte-Sainte-Marie, ça va être un quartier vivant aussi.
Brasserie Molson aussi.
Il y a Brasserie Molson. Il y a tout un quartier là qui veut se reconnecter avec le fleuve. Et puis là, tu fais une structure, puis je l'ai dit, mais il faut le répéter, c'est pas juste une structure en béton. C'est une structure en béton avec des murets de chaque côté.
Absolument.
Et avec des poteaux au milieu, des gros poteaux, puis des fils. Donc, c'est très, très haut. C'est très, très haut et c'est très massif. Puis là, le comité qui travaille là-dessus arrive même pas à commencer à travailler parce qu'il se déchire la chemise en disant « Ce qu'on voit, ça ne fonctionne pas. » Et ça, c'est le comité qui est engagé par la Caisse pour faire l'intégration et qui n'a que comme mandat de faire l'intégration. Et même eux, ils sont pas capables d'accepter.
Mais tu vois, la présidente Maude Cohen de ce fameux comité d'experts est déjà sur la défensive. Elle a dit cette semaine « On a les coups des franges. » Ça pourrait même aller jusqu'à rejeter une partie du scénario ou du tracé que propose la Caisse. Mais il faut aller bien au-delà de ça. Tu l'as dit, Paul, à sa face même. T'es pas architecte, t'es pas urbaniste, mais tu viens à Montréal, tu regardes ça, tu dis, ben voyons donc, où est le gros bon sens dans ce projet-là? Là, on est en train de sacrifier l'âme du centre-ville, je vais dire ça comme ça, sur l'autel de la rentabilité. Parce que c'est le seul argument que nous livre la Caisse. Ah, si on fait pas ça, si notre tracé est pas aérien, ça ne sera pas rentable. Attendez une minute. Si Vancouver a pu tabler sur 200 scénarios avant de conclure qu'il fallait enfouir le train, comment se fait-il à Montréal que ce soit si compliqué?
Mais Nathalie, même à Montréal, dans la première phase du REM, là, dans un premier temps, ils pensaient ne pas faire d'investissement dans le tunnel, que ça coûterait rien, ils prenaient le tunnel tel quel. Puis là, maintenant, ils l'ont refait, le tunnel, puis les coûts ont augmenté d'au moins 1 milliard de dollars. Et là, le président de la Caisse avait été interviewé en disant, mais là, ça doit pas être rentable avec ça? Non, ça va être encore rentable, c'est correct. On va être correct. Parce que c'est un bail de 99 ans. Hein?
Ah ben oui, et renouvelable en passant.
Renouvelable. Alors, non, ça va aller. Donc, pour la partie ouest, ben on peut rajouter 1 milliard, même c'est 2 milliards au total de l'ensemble des changements. Mais pour l'est, par exemple, faire attention, là, ça sera pas rentable. Les portes, on sera pas à dépeinturer, puis on va mettre 2 arbustes à l'entrée. Hey, wow.
Pause, cher commissaire, au retour, avec les chantiers, avec le passeport vaccinal, avec, disons, la nouvelle réalité, est-ce que quelqu'un a vraiment envie de revenir travailler au centre-ville de Montréal?
La commission Normando-Ferrandaise.
Bon, on a découvert le Québec au complet, l'expérience du télétravail depuis la pandémie. Bon, ça a des avantages, des inconvénients. Mais un des avantages pour les gens qui habitent à l'extérieur de Montréal, c'est de sauver 10, 12, 15 heures par semaine de déplacement.
Imagine.
C'est quelque chose, là. Puis même des gens qui partent de loin des extrémités de l'île de Montréal. Alors là, on nous annonce des travaux, le festival Les Cons recommence. Y a-tu quelqu'un qui veut vraiment revenir travailler à temps plein dans le centre-ville?
Ben, poser la question, c'est répondre. Hein? Non, ça fait pas la vague pour revenir travailler au centre-ville. Tu l'as dit, Paul. Puis il y a des gens, savez-vous, qui sont stressés, même terrifiés à l'idée de reprendre leur routine. Là, tu parles des nombreuses heures passées dans la voiture, dans les transports en commun, mais c'est les lunchs, c'est les enfants à l'école. Dépêche-toi, revenir à la maison pour aller chercher les enfants en garderie. Là, il y a... Juste à faire la nomenclature de toutes ces obligations, il y en a qui se mettent à pleurer. Non, il n'y a aucune raison de revenir travailler au centre-ville. À ça s'ajoute l'augmentation des cas, la quatrième vague. J'entendais Dr Mylène Drouin à ton micro ce matin dire tous les indicateurs là, tu sais, sur le panneau sont au rouge. Mais en même temps que je dis ça, je comprends les arguments d'un Michel Leblanc de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain qui, lui, ben il est un peu plus là. Il a déchiré tout ce qu'il y avait de boutons sur sa chemise puis implore le gouvernement en disant « Mais là, attends une minute, là, il y a comme une incohérence. » C'est son discours en disant que en affirmant que on est quoi, 75-77% de double vaccinés au Québec. Alors, pourquoi on ne tablerait pas là-dessus pour favoriser un retour progressif vers le centre-ville? Mais en même temps, on se dit, oui, double vacciné, mais moi, si je me retrouve dans une tour à bureau que mon voisin est séparé par un plexiglas, qu'est-ce qui me dit que il est vacciné ou il n'est pas vacciné? Alors, je comprends la prudence des employeurs. Louis Vachon, qui est un grand employeur, grand patron de la Banque nationale, 10% des travailleurs qui travaillent dans les bureaux, ils ont voulu en ramener 30%, mais là, on a poussé ça jusqu'au 17 octobre. Le gouvernement a 60 000 fonctionnaires. Alors, le mot d'ordre va dans ce sens-là. Moi, ce que je pense que ça va prendre, c'est patience, patience, patience.
Oui, puis en même temps, on a acheté il y a une sorte de contrat entre la population et la santé publique, et le gouvernement, où en disant, faites-vous double vacciner, puis après ça, il n'y aura pas de problème. Puis après ça, c'est faites-vous double vacciner, puis on va avoir un passeport vaccinal, puis après ça, il n'y en aura pas de problème. Mais là, c'est pas ça. C'est faites-vous double vacciner, ayez le passeport vaccinal, puis les problèmes continuent. Et ça, c'est pas de la faute de la santé publique, là. C'est la faute du variant Delta. Mais la communication n'a pas été si bonne que ça, là. Le rêve, le go, 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 tout le monde, on y va, on va l'avoir, on va l'avoir, on va l'avoir. Tu scores 10 buts, tu dis, on va gagner la game, on va gagner la game. Mais non, toi, il faut t'en score 15, puis finalement, t'en gagnes toujours pas, puis elle continue.
Le docteur Drouin a répété ce que le docteur Arruda a dit en termes, elle, sa cible, là, c'est 85 puis 90%.
Ben voilà, à cause du Delta, hein, tu sais, le facteur de contamination, là, du premier variant, ben, le variant chinois, là, à Wuhan, là, t'es autour de 1, 2, là, on est rendu à 6, puis la variole, c'est 12. Fait qu'on se rapproche de, plus la maladie dure, plus les variants se multiplient, voilà. Plus les variants se multiplient, plus il y a de chances qu'il y en ait un qui soit dévastateur, tu sais. Puis quand tu vois le taux de vaccination dans le monde, ben on sent qu'on va s'en aller là. Donc, on se dit, il n'y a pas vraiment de solution à court terme. Puis là, le fait que les gens veulent pas retourner travailler, ben aussi qu'on leur demande de ne pas retourner travailler, ça commence à être la fin du rêve, là. C'est la fin de ce... Alors, dites-le, ben OK, là, on n'est pas dans ce rêve-là. On s'en va, on va se fixer un nouvel objectif. C'est pas nous qui décidons, c'est la maladie. Puis cet objectif-là, je comprends, là, il faut faire le deuil du rêve qu'on avait. Voici le nouvel objectif. Mais tu peux pas juste laisser de mois en mois dire, ouais, ça va aller mieux, faites des efforts.
C'est comme si tu gérais la petite semaine.
Ben
là,
oui, ouais. le message, c'est oui, non, conformez-vous à la réalité. Non. Et là, on a besoin de plus de mobilisation. Et c'est vrai que le centre-ville est en risque. Vraiment en risque.
Oui.
Moi, quand on a construit.
On le voit, là, on travaille au centre-ville.
Quand on a fait la conception de la rue Sainte-Catherine, on est allé voir les commerçants un par un quasiment, tu sais. Les gros commerçants, le Sport Expert, au coin de Metcalfe, le Montreal Trust, Ivanhoe Cambridge, les gros vendeurs, l'hôtel, le nouvel hôtel en haut du, marchand de diamants, là, c'est Ogilvy, là, c'est pas Ogilvy, c'est le marchand. Oui, c'est ça, Ogilvy. Bon, un par un. On leur a dit, votre business, c'est quoi? Ils ont tous dit la même chose. Les travailleurs, c'est extrêmement important. Ils nous parlaient du Grand Prix qui est extrêmement important.
Les touristes, les touristes et les travailleurs.
Là, cet été, ils ont un petit répit. Il y a un peu de touristes, là.
Oui, c'est ça. Mais les travailleurs, là, les gens qui rentrent, là, c'est tous des gens qui gagnent beaucoup d'argent, qui sont là le midi pendant une heure, ils en profitent pour aller faire leurs courses. T'enlèves les travailleurs, il va y avoir une série de faillites, là. On s'en va vraiment vers cette série de faillites.
Mais tu vois, t'as-tu vu les derniers, là, statistiques là-dessus sur les faillites? Ça, c'est intéressant. Mais l'indicateur, c'est, il n'y a pas eu.
Oui, parce que les aides ont permis de se rendre jusque-là.
Ça n'a pas été la catastrophe.
Si ça dure encore 18 mois, là.
Ben, ça va prendre de l'aide du gouvernement. Encore.
Ben oui, ça va prendre, bon, OK.
Encore
ben,
et
ça,
encore.
Ça va être ça, la parce solution, que tu... parce que sinon, le centre-ville, il va tomber bien raide, là. Ça, c'est certain.
Ben, c'est sûr qu'il y a des entreprises qui ne s'en remettront pas, évidemment. Mais tu parlais de solution tantôt. T'sais, bon, on parle de la vaccination chez les 12 ans et moins aujourd'hui, là. Je pense que ça, c'est un incontournable si on veut atteindre le 80, 85, 90 ou même 95 %. L'autre chose, Luc, ça peut sembler cliché de le dire, convenu, mais... Peut-on transformer ce qui se passe, par exemple, pour le centre-ville en opportunité? Comment on peut réfléchir? Mm-hmm. Tu le disais, la fin d'un rêve, là.
Oui,
mais le
ça.
Rêve, ben, il va ressembler à... Tu sais, si on veut se remettre à rêver, là, la réalité va ressembler à quoi, par exemple, ben, voilà, dans 12 mois?
Totalement.
Là,
on peut pas laisser à Mylène Drouin puis à Dr. Arruda la responsabilité de préparer le scénario B, C, D en termes sanitaires, socio-économiques, immobilier, là, ça prend des tables de réflexion, puis dire, bon, écoute, si jamais il y a un autre variant, si jamais ce variant-là dure, si jamais la vaccination augmente pas, si jamais les travailleurs reviennent pas, et aux États-Unis, les travailleurs, dans les entreprises, ils ont dit, là, vous allez revenir, ben, il y a beaucoup de travailleurs qui reviennent pas. Il y a beaucoup de non, je reviendrai pas. Et ça, là, c'est-tu quoi? On paye ce qu'on a fait subir aux employés pendant des années, 15 heures dans congestion, parce que pas de transport en commun efficace, on a laissé construire des quartiers n'importe où. Ça, c'est pas humain.
Il y a un auditeur qui m'a écrit, sa femme travaille centre-ville pour une banque. Ça fait 20 ans qu'elle travaille là. Il n'est pas question qu'elle revienne 5 jours par semaine.
Voilà.
Puis il n'est pas question qu'elle revienne 3 jours par semaine. Quitte à démissionner. 20 ans de carrière.
Voilà, moi, j'y crois. Tu sais, il y a peut-être
moi
des
gens qui
croient. Il y a des
oui,
jobs
oui.
là où tu as besoin d'être en contact. Nous autres, on est en contact.
T'sais. Oui.
Mais des jobs, tu as besoin d'être là. Mais... On va te faire revenir pour te mettre devant un téléphone dans un cubicule qui est passé de 10 mètres à 3,50 mètres sur 20 ans, parce que c'est ça qui s'est passé. Les cubicules, ils rétrécissent. Comme c'est dans la sécheuse. Ils rétrécissent, ils rétrécissent, ils rétrécissent. La vie de bureau, elle rétrécit. Le food court en bas. Fait que là, t'es dans ton petit 3,5 mètres, tu prends la petite ascenseur où t'es collé avec tout le monde, tu descends dans le food court, tu te mets dans la ligne d'attente, tu attends 10 minutes, tu pars avec ta petite assiette en carton, puis tu vas manger à ton bureau.
Wow.
Ben, c'est ça, la vie. Ben, personne va retourner pour ça. Personne va retourner pour ça. Va falloir réinventer le travail. Et si tu veux que les gens reviennent, ça aussi, faut le mettre dans la réflexion. Qu'est-ce qu'on a fait subir aux travailleurs? C'est quoi les conditions de travail qu'on leur a données depuis 20 ans?
C'est une belle conclusion, n'est-ce
c'est
pas?
Très bien. C'est très bien. Je vous félicite. Vous avez fait vos devoirs. On se retrouve demain.
C'est 23.